Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin dans ce temple, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle et il t'invite à l'écouter, à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou les réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue à vous dans ce temple, à l'oratoire du Louvre, vous les paroissiens fidèles, vous les personnes de passage qui êtes là pour la première fois peut-être. Merci à Sarah Kim qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Que chacun de vous se sente ici chez lui, dans cette maison de prière, pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Nous nous unissons à celles et ceux qui luttent pour leur survie contre leurs oppresseurs, à celles et ceux qui luttent contre la maladie ou qui traversent un temps de deuil. Nous nous unissons à celles et ceux qui comptent sur le secours de notre prière. Éternel, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites simplement à vivre un temps où, par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres comme membres d'un même corps en communion avec Jésus le Christ. Louange à toi, Seigneur. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre maintenant le répon qui s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Vous le trouverez au début du psautier français. C'est la liturgie que nous allons suivre au tout début du culte. Avec les mots du psalmiste, louons l'Éternel. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain desséché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence, car dans l'assurance de ton amour, pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour renouveler l'appui de ta justice. Louange à toi, ô Éternel, pour nos cœurs et nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine alors. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous, que tous les rois se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront. Je vous invite à poursuivre notre louange et nous prendrons maintenant dans le psautier français le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Et de ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Prions ensemble. Je voudrais, mon Dieu, tenir les ficelles de ma vie, être maître des événements, conquérir mon propre destin, gagner mon salut à la sueur de mon front et de ma pensée. Mais alors, je te prie, sauve-moi de moi-même et ouvre-moi à toi. Je cède volontiers au chant des sirènes et aux langues des serpents qui me laissent entendre que je peux être le centre d'un monde que je façonnerai à ma guise, selon mon bon plaisir. Mais alors, je te prie, sauve-moi de moi-même et recentre-moi sur toi. Je me laisse tenter par l'idée qu'être libre, c'est décider soi-même, dicter sa propre loi, penser avec satisfaction n'avoir besoin de personne et surtout pas d'un plus petit que moi. Alors je te prie, sauve-moi de moi-même et rends-moi libre en toi. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi avec un texte que j'emprunte au pasteur Martin Luther King. Je veux croire à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Je ne croirai pas à la race ou au privilège, à l'ordre établi. Je veux croire que tous les hommes sont des hommes avec un grand H, que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ceux qui sont loin d'ici. Je veux croire que le monde entier est ma maison et le champ que je sème, et que tous moissonnent ce que tous ont semé. Je ne croirai pas que je puisse combattre l'oppression là-bas si je tolère l'injustice ici. Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne suis pas libre tant qu'un seul homme est esclave. Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Je veux croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur la terre, et je ne croirai pas que toute paix est vaine. Je ne croirai pas que le rêve des hommes restera un rêve et que la mort sera la fin, mais j'ose croire toujours et malgré tout à l'homme nouveau. J'ose croire au rêve de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, je vous invite à lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 4 à 30. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit est donné un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance selon le même Esprit. À l'un dans le même Esprit, c'est la foi, à un autre dans l'unique Esprit, ce sont les dons de guérison. À tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il veut. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est du même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps de chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour le moins honorable, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards, mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des hommes chargés de l'enseignement. Vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 338 dont nous chanterons les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Amis, frères et sœurs, nos engagements dans la vie personnelle ou associative constituent, si peu que ce soit, un maillon dans la vie de la société dans laquelle nous évoluons. J'en veux pour preuve qu'au début de chaque année civile, au mois de janvier par exemple, selon certains sont invités en tant que représentants des corps constitués, selon l'expression consacrée, à se rendre à la mairie ou à la préfecture pour y recevoir les vœux des responsables de notre pays, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Et nous y retrouvons pêle-mêle des patrons d'entreprises, des directeurs d'hôpitaux, des représentants de partis politiques et aussi des présidents des associations culturelles, loi 1901, comme ceux des associations cultuelles, loi 1905. Se mêlent aussi quelques évêques, pasteurs, rabbins et imams. Mais par leur présence à tous sont représentées en fait toute personne qui vit dans une ville, quelle que soit son échelle. Quel que soit ce corps constitué, nous avons la chance et peut-être même le privilège d'y avoir notre place à cause de ce que nous sommes, de ce que nous savons faire, à cause de nos dons qui sont divers et multiples. Et si nous sommes à la place qui est la nôtre, si nous sommes investis à un endroit particulier de notre travail ou de notre vie, c'est à cause, ou plutôt grâce, à notre personnalité, nos aptitudes, nos dons, nos dispositions, mais aussi notre vocation, autrement dit l'appel que nous avons reçu. Chacun a l'air de vaquer individuellement à ses occupations, tant professionnelles que familiales, tant religieuses qu'associatives, tant politiques qu'artistiques. Mais si on pouvait faire un arrêt sur image, si nous pouvions avoir en un instant une vue d'ensemble, ne serait-ce que sur notre quartier, on s'apercevrait vite que chacun est complémentaire de l'autre à tous les niveaux et qu'ainsi un certain équilibre est maintenu. On verrait aussi, peut-être mieux encore, toutes les personnes qui n'ont pas leur place ou dont on ne s'occupe pas très bien, voire très mal. Et nous savons très bien que lorsqu'il y a un grain de sable dans la chaîne, la répercussion est générale et le déséquilibre sensible. Blocage et carambolage sont inévitables et c'est la crise. Ce qui est vrai de notre travail ou de notre vie personnelle, familiale, l'est aussi plus particulièrement pour nos vies d'église. Et je parle ici de l'Église visible, et j'emploie volontiers et avec reconnaissance le pluriel quand je dis le mot « Église ». Car la pluralité des dénominations représente autant d'organisations ecclésiales et d'orientations théologiques. Elle signifie surtout la multitude des chemins de foi et la magnifique liberté avec laquelle Dieu vient rencontrer l'être humain au cœur de sa propre histoire. Et c'est bien cet ensemble pluriel et complémentaire qui forme l'Église universelle. Pour rester à l'intérieur de nos églises, si j'ose dire, nous rencontrons des personnes aux fonctions multiples. Alors il y a celui ou celle qui a le don de Dieu spontanément, librement. Celui ou celle qui a le don de parler, de communiquer des réalités spirituelles. Il y a celui ou celle qui a le sens de la musique et de la liturgie ou qui a le don de la prédication ou de l'enseignement. Celui ou celle qui sait aider efficacement les autres. Celui ou celle qui a le don de la visite ou le don de la prière. Celui ou celle qui a les gestes de sagesse, les paroles de réconfort, ces paroles qui renforcent la foi, qui éclairent une situation ou qui rassurent la personne hésitante. Il y a encore celui ou celle qui sait organiser et gouverner, celui ou celle qui sait réparer ce qui est cassé ou abîmé, réagir dans l'urgence ou former des projets à long terme. Il y a celui ou celle qui planifie comme celui ou celle qui improvise, celui ou celle qui a le don d'écouter, de comprendre, de consoler. Il y a donc cette société originale avec la variété de tous ces dons que l'apôtre Paul appelle dans sa lettre aux Corinthiens les charismes. En revanche, ce que nous ne saisissons pas toujours, c'est dans quel esprit tous ces dons sont vécus. Et l'apôtre Paul nous donne une réponse en affirmant que chacun est animé justement par l'unique esprit, l'unique souffle de Dieu, ce qui l'amène à dire que tous les membres de cette Église, quelle qu'elle soit, forment en réalité un seul corps. Paul, en son temps, s'est trouvé confronté de façon particulière à des communautés chrétiennes très vivantes, suscitées d'ailleurs par son témoignage. Et l'une d'entre elles était justement la jeune communauté de Corinthe, à qui l'Esprit-Saint avait largement distribué son souffle, ce qui la rendait particulièrement échevelée. Cependant, en raison de l'expérience exaltante des différents dons de l'Esprit-Saint, des rivalités, des désordres avaient surgi dans cette communauté, précisément entre ceux qui en avaient été les bénéficiaires. Alors, il fallut recourir à Paul, qui se trouvait loin de cette communauté, pour obtenir des éclaircissements. Et dans sa lettre, Paul répond sans hésitation aux Corinthiens et leur explique comment faire fructifier ces grâces particulières. Il rappelle qu'il y a diversité de charismes et de ministères, comme celui des apôtres, des prophètes ou des maîtres, mais que tous proviennent d'un seul et même Seigneur. Il affirme que dans la communauté, on trouve des personnes capables de faire des miracles ou d'obtenir des guérisons, que d'autres sont portés de façon exceptionnelle à aider et d'autres à gouverner, mais tous ces dons tirent leur origine du Dieu unique. Alors, puisque ces différents dons proviennent du même esprit qui les accorde librement, ils ne devraient être que complémentaires et en harmonie entre eux. Ils ne sont pas donnés pour la satisfaction personnelle. Ils ne peuvent pas être motif d'orgueil ni d'affirmation de soi. Au contraire, ils sont accordés en vue d'une finalité commune, édifiée, la communauté, ayant pour but de servir. Ils ne peuvent engendrer ni rivalité, ni confusion. Paul, tout en se référant à des dons particuliers qui concernent précisément la vie de la communauté ecclésiale, est de l'avis que chaque membre a une capacité propre, un talent à faire fructifier pour le bien de tous, et que chacun doit en prendre connaissance du sien avec reconnaissance. Il présente donc la communauté comme un corps. Cette image, cette comparaison, cette métaphore a rejoint l'ordinaire de notre quotidien. Il pose cette question: si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Dans la communauté ecclésiale où les différents dons fonctionnent harmonieusement, Paul discerne une réalité qu'il nomme le Christ. En effet, ce corps original que composent les membres de la communauté est vraiment le corps du Christ. Le Christ continue à vivre dans l'Église et l'Église est son corps. Et il ne s'agit ici ni d'un lieu ni d'un édifice, mais des personnes ensemble, reliées entre elles. Mais par quoi sont-elles reliées? Les uns diront que c'est par le baptême, d'autres diront que c'est par le pain partagé, signe visible de la grâce invisible. D'autres encore se sentiront membres de ce corps, indépendamment de ces signes visibles, mais se sentiront unis par une recherche, un chemin à suivre, ou des textes à travailler, ou une parole à approfondir, une entraide à concrétiser. Mais au fond, ce qui va unir ces membres aux aspirations si diverses, c'est l'amour avec lequel chacun accueille l'autre selon la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. D'ailleurs, c'est exactement ce que Paul développera dans le chapitre suivant, l'amour qu'il appelle le charisme par excellence. Alors c'est bien évidemment plus facile à dire qu'à vivre. Nous connaissons tous nos propres limites à ce sujet. Mais nos limites sont liées au seul fait que nous ne comptons trop souvent que sur nous-mêmes. Mais si nous sommes honnêtes et que nous les reconnaissons, ces limites, alors il y a une chance pour nous de les dépasser. Puisque le corps est un, les membres de la communauté chrétienne réalisent leur nouvelle façon de vivre en établissant entre eux l'unité, et cette unité qui fait la part belle à la diversité et au pluralisme. La communauté ne ressemble pas à un corps de matière inerte, mais à un organisme vivant, composé des membres les plus divers. Chacun est invité à résister à la tentation de se sentir le meilleur et le plus indispensable, en oubliant de prendre soin du plus petit, du plus vulnérable et résister aussi à l'envie de provoquer la division. Sinon, c'est la brèche rêvée pour que le mal s'installe sans vergogne. Alors, comment vivre cette parole que la Bible nous propose aujourd'hui ? Plusieurs membres, mais un seul corps. Il nous faut avoir, me semble-t-il, un grand respect pour les différentes fonctions, les dons et les talents des membres de la communauté. Mais nous sommes invités à décliner ce grand respect aussi en dehors de la communauté chrétienne, dans notre société tout entière. Alors que nous sommes réunis pour ce culte, nous sommes invités à ressentir cette rencontre, cet échange, et même de vivre ce culte comme étant le nôtre, parce que nous faisons partie du même corps et que par nos engagements, tant sur le plan de la société qu'en Église, nous sentons que nous sommes reliés les uns aux autres et membres d'un corps unique. Et Paul utilise l'image du corps humain pour exprimer sa compréhension de l'humanité. Il porte un regard positif sur le corps, qui rappelle d'ailleurs l'attention que portait Jésus aux hommes et aux femmes qu'il rencontrait pendant son ministère. Et le message du Christ n'est pas seulement un discours intellectuel ou spirituel, mais il s'accompagne de guérisons, des infirmités diverses, variées, qui rétablissent le bien-être dans le corps, rétablissent par conséquent la relation. Nous n'avons pas seulement un corps dont nous avons à prendre soin, mais nous sommes aussi un corps dont nous avons à prendre soin. Et c'est ce que je pense que la société essaie de dire aujourd'hui par cette expression « vivre ensemble ». Cette expression nous surprend, nous agace, parce que elle nous est dite souvent en mode répétitif, et pourtant c'est l'expression même maîtresse de notre engagement humain. Ce fameux « vivre ensemble » nous demande de faire attention à ne pas survaloriser notre propre corps, tant physique que social, tant associatif que religieux, au risque d'un narcissisme destructeur. Mais le vivre ensemble, symbolisé par le corps unique et des membres différents, divers et variés, présenté par Paul, nous invite à faire attention à plusieurs choses. Avoir un corps physique dont nous prenons soin équivaut à être un corps social, ecclésiastique, politique, associatif, en bonne santé. Autrement dit, c'est faire corps les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Faire corps, c'est avoir au fond de soi ce sentiment de solidarité les uns envers les autres, et personne ne peut vivre dans l'indifférence de ce qui se passe autour de lui. Faire corps, c'est exercer sa vigilance envers les plus petits, c'est être attentif ensemble, comme on le voit écrit partout dans nos lieux publics. Faire corps, c'est aussi faire de la place à la personne que nous pourrions hâtivement considérer comme un maillon faible ou comme le membre indécent de notre corps. Paul demande que ce soit ce membre-là dont nous prenions encore plus soin. Être un seul corps, cela veut dire aussi qu'il y a de la place pour la diversité par le mouvement des populations à travers notre pays et à travers tous les pays. Au fond, le monde n'en finit pas d'être créé. Et cette création est sans cesse renouvelée, nous invite à l'invention. Le paysage de notre pays, pour ne prendre que cet exemple, est une foule bigarrée. Et si certains voient dans cette diversité une menace politique et existentielle, d'autres, dont nous sommes les premiers en tant que chrétiens, sont invités à y voir une richesse dont chacun est porteur. Si tout le monde était pareil, conforme les uns aux autres, ce serait l'appauvrissement de l'univers. Chaque fois qu'un régime politique ou ecclésial a voulu mettre en place la dictature d'un corps unique par l'élimination des membres qui le gênent ou par l'uniformité de ceux qui restent, ce régime a été voué à l'échec parce qu'il va tout simplement à l'encontre de l'humanité. En revanche, le vivre ensemble nécessite d'abandonner ses rêves autoritaires et ses démons hégémoniques pour travailler à la réconciliation des diversités et accueillir la différence comme une richesse et non comme un obstacle ou un handicap. La pluralité des membres permet la fécondité de la vie et permet pour chacun de nous d'avoir accès à toutes les dimensions de la vie, à toutes les facettes de l'existence, à ne se priver de rien ni priver les autres de ce que la vie peut offrir. Ainsi que Jésus l'a dit dans cette phrase de l'évangile de Jean, « Je suis venu pour que chacun ait la vie et qu'il l'ait en abondance. » De même que nous prenons en considération et protégeons chaque membre de notre corps de chair, ainsi pouvons-nous faire de même pour chaque membre de ce corps en humanité, sociale ou ecclésiale. Et si nous ne le faisons pas encore, il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. Se souvenir en tout temps et en tout lieu que tous les membres du corps, quels qu'ils soient, sont dignes de notre estime, de notre respect, de notre attention. Et notre devoir est de faire notre possible pour qu'ils puissent se rendre utiles à la société dans son entier, sans rivalité et sans exclusion. Nous sommes encore et toujours invités à ne pas déprécier ce qui nous est demandé là où nous sommes, même si parfois notre quotidien peut nous apparaître comme répétitif, banal ou parfois même privé de sens. Si ces mots nous interpellent, nous chagrinent, nous titillent, demandons à Dieu d'accueillir et surtout d'assumer cette pluralité qu'il veut pour nous depuis la destruction de la tour de Babel. Et surtout, demandons-lui d'augmenter en nous et entre nous cette force d'aimer, un autre charisme que l'apôtre Paul annonce justement à la fin de son discours, un charisme qui dépasse tous les autres et qui est essentiel à reconnaître et à cultiver, cette charité, cette agapé, autrement dit cet amour sans condition, cette force d'aimer chaque personne que nous rencontrons, chaque parcelle de la création, selon l'expression même de Martin Luther King, qui nous pousse à nous engager dans la lutte contre toute forme d'injustice. Si la recherche de la justice est notre but et notre engagement, l'amour réciproque est le liant et la garantie de notre vie ensemble. 21 ans après la destruction des tours jumelles, alors que la guerre est aux portes de l'Europe depuis 200 jours, que nous sommes appelés sans cesse à la vigilance climatique et que tant de nos contemporains manquent du nécessaire, nous sommes plus que jamais membres différents, c'est sûr, mais toujours un seul corps. Et lorsqu'un membre souffre, tout le corps souffre avec lui, mais quand il se réjouit, alors c'est la joie pour le corps entier. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 213. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place et je cède la parole à Aurore Saglio-Thébo, présidente du Conseil presbytéral.
Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous, également à tous ceux qui nous suivent en ligne. Quelques annonces. C'est la rentrée, donc cette semaine est très chargée. Nous avons tous les jours quelque chose à l'oratoire du Louvre. À commencer par aujourd'hui. Juste après le culte, vous pouvez déjeuner avec Béatrice Cléromazir et Agnès Adeline Schaeffer. Donc restez déjeuner avec elles à la maison presbytérale en salle mono. Et après, vous parlerez d'amour sur un sujet inspiré cette année par Ricoeur, qui est l'autre, la différence. Donc cette séance a été préparée par Béatrice, puisqu'aujourd'hui, Agnès s'est chargé de la prédication. Voilà, donc rejoignez-les toutes les deux juste après à la maison presbytérale. Lundi, le grec reprend, lundi soir. Mardi, tu reprends, Béatrice, pour la deuxième année consécutive. Vous savez que l'année dernière, on s'est dit qu'il fallait ouvrir en semaine l'oratoire du Louvre pour un culte, et un culte notamment avec Sainte-Seine. Donc mardi, tu reprends culte avec Sainte-Seine, suivi également d'un déjeuner que cette fois-ci vous cuisinerez avec Béatrice, et notamment des figues rôties, parce que le sujet du partage biblique qui suivra mardi après-midi, ce sont les figues et le temps messianique. Donc ça c'est mardi. Mercredi soir, le groupe des jeunes reprend, donc vous avez un des membres qui est ici, avec Agnès Adeline Schaeffer, je ne me souviens plus du sujet.
L'inattendu,
voilà. Donc ça c'est mercredi. Jeudi, pause spirituelle, et il y a aussi autre chose jeudi, je ne sais plus quoi, du grec, je crois à nouveau. Non, les répétitions du cœur reprennent, jeudi soir. Vendredi, Alors, vendredi, plusieurs choses. Premièrement, nous préparons les journées du patrimoine, c'est-à-dire que nous réouvrons ce week-end samedi et dimanche, donc samedi à partir de 14h jusqu'à 18h, et dimanche toute la journée, avec une pause à l'heure du déjeuner pour les journées du patrimoine. Et également, vendredi matin, vous êtes tous conviés à l'inauguration à 10h45 du jardin mémorial en mémoire du massacre de la Saint-Barthélemy qui va être devant Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était donc le jardin mémorial décidé par Anne Hidalgo avec ses deux adjointes, Karen Taïeb en charge du patrimoine et Laurence Patrice en charge de la mémoire que vous voyez régulièrement ici avec nous à l'Oratoire du Louvre, Ariel Veil, maire de Paris-Centre et le président de la Fédération du protestantisme, inaugureront à 10h45 vendredi le jardin mémorial juste devant la place du Louvre. Vous y êtes tous bien entendu conviés. Également aura lieu l'inauguration d'une exposition préparée, conçue et réalisée par Marianne Carbonnier-Bucard de la Société de l'histoire protestante française, qui sera inaugurée vendredi matin par les mêmes officiels que je viens de vous citer, mais qui sera exposée dès samedi après-midi pour les journées du patrimoine à l'Oratoire du Louvre. Donc nous avons la chance d'accueillir cette exposition à partir de samedi pour plusieurs semaines à l'Oratoire du Louvre. Donc nous avons été choisis pour pouvoir mettre en valeur cette exposition sur la Saint-Barthélemy. C'est tout pour la semaine, mais vous voyez, la semaine est très chargée. Toutefois, sur les journées du patrimoine, nous sommes encore en train de faire le programme, parce que nous avons beaucoup de sollicitations aussi, ce qui est assez sympathique. Sachez, vraiment, retenez, samedi, soyez très nombreux à 17h, un concert-conférence, donc samedi prochain, 17h, concert-conférence sur Luther et la réforme musicale. Ça va vraiment être passionnant, nous avons reçu le programme. Donc il y a des morceaux de musique de Luther, mais également de Brahms, de Bach, et toute l'histoire de la réforme musicale vous sera expliquée et démontrée, j'allais dire, samedi prochain, 17h. Donc soyez nombreux. Également, dimanche matin prochain, nous avons Stéphane Lavignotte qui est parmi nous, le pasteur Stéphane Lavignotte, connu pour ses positions écologiques assez fortes. Il nous présentera également son ouvrage « À l'issue du culte » de 12h à 13h. Et l'après-midi, nous recevrons le thème de l'EJEP étant le patrimoine durable. Nous avons demandé au groupe des jeunes quelle association ils aimeraient pouvoir voir ici à l'Oratoire du Louvre pour nous parler d'église verte. Alors cette association se trouve n'est pas protestante, nous ne sommes pas encore très bons sur le sujet. Mais en revanche, nous avons la chance de recevoir ici le mouvement Laudato, qui est un mouvement international catholique, qui va nous présenter ce qu'ils font depuis plusieurs années en termes d'église verte et qui sera parmi nous dimanche. Voilà, j'arrête là, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais c'est pour vous dire que nous reprenons, à fond les ballons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Soyez nombreux, aidez-nous, c'est le moment de l'offrande. Les prix de l'électricité vont augmenter terriblement. Nous avons vraiment terriblement besoin de vous. Merci à vous.
Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande, qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié ou des marques de tendresse. Éternel Dieu de la vie, nous te prions les uns pour les autres. Tu sais combien nous regardons les autres avec les yeux du monde, des yeux qui scrutent, qui jaugent, qui classent. Selon nos envies, nous accueillons ou nous rejetons. Selon nos principes ou nos idées, nous ouvrons nos bras ou nous nous fermons. C'est alors que nous oublions que nous faisons partie du même corps. Éternel Dieu de la vie, apprends-nous à regarder autrement, avec des yeux nouveaux. Conduis-nous aux autres en vérité. Apprends-nous encore et toujours à transformer notre regard et à vivre des relations fraternelles en vérité. Éternel Dieu de la vie, en Christ tu nous regardes et nous voilà enfants, chacun reconnu et aimé inconditionnellement, indépendamment de nos statuts, de nos qualités, de nos étiquettes. Alors, Éternel, nous t'en prions, regarde-nous toujours avec ces yeux-là. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pour continuer votre route, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi sa face et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. et je vous souhaite un beau dimanche.